Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h, merci d'être avec nous.
Le danger est là et peut-être qu'il est plus grave qu'avant. Il faut doubler de vigilance.
Testé encore et encore, alors que le variant anglais est entré sur le sol français, les autorités veulent isoler les malades. Une campagne de dépistage massive est lancée demain à Roubaix. Nous y serons dès le début de ce journal.
Et faut-il, pour lutter contre le Covid, renforcer à nouveau les mesures? L'exécutif ne s'interdit rien, pas même un troisième confinement.
La neige en Espagne, Madrid n'avait pas vu cela depuis 50 ans. La tempête Philomena a fait 4 victimes et paralyse une partie du pays.
Les musées fermés se réinventent sur TikTok, le réseau social des jeunes. Ils tentent de trouver un nouveau public.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le variant anglais du Covid est-il en train de se propager en France? On sait qu'il est déjà présent en région parisienne, mais aussi à Marseille.
Marseille, où un cluster a été détecté ce week-end. D'une vingtaine de personnes qui se connaissent ont été testées positives, dont une au moins positive à la souche anglaise. Il s'agit d'une personne qui travaille outre-Manche et qui est revenue à Marseille pour les fêtes. La traque du virus prend donc une autre tournure. La mutation britannique sera notamment l'une des préoccupations du dépistage massif qui sera organisé à Roubaix à partir de demain. Cette campagne commence demain et Maximilien Carnier s'y trouve pour Europe 1.
Bonjour mesdames, est-ce que vous allez vous faire dépister?
Non, on ne sait pas en fait vraiment ce que c'est le virus. Peut-être on a un rhume, on nous dit qu'on a le virus alors qu'en fait on n'a rien, on n'est pas malade, donc j'y crois pas moi personnellement.
Mais qu'est-ce que vous perdez à aller vous faire dépister?
Pas évident pour Fatia d'inciter les habitants de Roubaix à se faire prélever. Des réticents, il y en a quelques-uns.
Je suis pas malade, je me sens bien, donc pourquoi aller me faire dépister?
Mais vous savez qu'il y a une mutation au niveau du virus.
Alors pour tenter d'alerter, cette ambassadrice Covid insiste sur ce nouveau variant.
Le danger est là et peut-être qu'il est plus grave qu'avant. Il faut doubler de vigilance.
Car souvenez-vous, en octobre dernier, la ville avait connu un taux d'incidence record, l'un des plus élevés en France. L'intérêt du dépistage massif est donc double. On en est où actuellement? Et puis surtout, le virus mutant anglais est-il ici? Benoît Vallée, directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Nous allons, pour les positifs, regarder si le variant est présent parmi ces positifs. Les biologistes ont des moyens d'identification des différentes protéines du virus et ensuite ils font une analogie génétique par rapport au variant qui a été identifié en Angleterre.
Et l'autre enjeu, ça va être de vérifier la fiabilité des deux tests incontournables, PCR, antigéniques, qui seront effectués sur chaque volontaire qui ira se faire dépister. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1.
À Roubaix, pendant 6 jours, donc, tous les habitants de la ville sont invités à se faire tester gratuitement sur le modèle de ce qui s'est fait avant Noël au Havre et à Charleville-Mézières, avec là-bas un succès très limité. Moins de 10% des habitants se sont fait tester.
Dans le pays, ce sont 20 000 nouveaux cas qui ont été détectés en 24 heures. L'épidémie repart à bas bruit. Le couvre-feu est donc étendu dans 8 départements de l'Est de la France.
Couvre-feu dès 18 heures pour au moins les 10 prochains jours. Et faut-il craindre d'autres mesures? Mickaël Darmon posera la question tout à l'heure au ministre de la Santé, Olivier Véran, invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 à 10h. Ce qui est sûr, c'est que l'exécutif ne s'interdit rien, Adrien Beck.
Le mot confinement est très rarement prononcé, mais il n'est plus tabou depuis longtemps. Jean Castex, Olivier Véran ont d'ailleurs préparé les esprits ces derniers jours. En cas d'aggravation de la situation épidémique, le gouvernement n'hésitera pas à prendre des mesures, je cite, plus restrictives. Cela pourrait être un élargissement du couvre-feu dès 18h sur tout le territoire. Selon nos informations, le Conseil scientifique doit justement remettre une note en début de semaine pour évaluer l'efficacité du couvre-feu déjà en place. Solution ultime, elle reste sur la table sans pour autant être d'ores et déjà programmée. Confiner toute la France, évolution du nombre de cas de Covid, environ 17 000 en moyenne chaque jour ces derniers temps, risque d'un effet nouvel an dans les prochains jours et puis risque aussi de flamber en raison du variant anglais. Autant de données que le gouvernement va scruter avant de prendre en milieu de semaine les décisions qui s'imposeront.
Adrien Beck, et tout à l'heure à 7h40, nous recevrons François Sauvadet, le président du département de la Côte d'Or, qui voudrait justement qu'on fasse un peu plus confiance au département en ce qui concerne le modus operandi, notamment sur la vaccination.
Et s'agissant de la vaccination, justement, elle se poursuit de plus en plus vite. Et sur la stratégie, écoutez ce que demandait hier sur Europe 1 Ségolène Royal.
Les plus de 75 ans, ils sont déjà en cours de vaccination, notamment les personnes en EHPAD également. Vous voyez pourquoi ensuite, par séquence d'âge, en reculant, mais non, on pourrait passer ensuite directement aux jeunes. Bien sûr, la meilleure solution, ce serait d'en finir avec la pénurie des vaccins. Mais cette pénurie, on le sent bien, ne va pas se terminer d'ici les semaines qui viennent. Et par conséquent, je trouve que l'attention portée aux jeunes, ça sera un signal fort dans notre société.
Alors, faut-il vacciner les jeunes en priorité ? Réponse de Dominique Le Guludec, elle est présidente de la Haute Autorité de Santé.
Si vous vaccinez les jeunes, vous allez mettre des mois et des mois à diminuer les hospitalisations et les décès. Premièrement, et en attendant, ça fait beaucoup de gens qui meurent, et puis ça fait aussi tous les autres, le système de santé qui est surchargé, tous les autres, il y a eu moitié moins de transplantations, il y a beaucoup
donc,
moins...
Donc scientifiquement, ça n'a pas de sens.
Et scientifiquement, ça n'a aucun sens, et surtout, c'est même pour les jeunes. Parce que quand on aura vacciné toutes ces personnes fragiles, même si on n'a pas encore cassé l'épidémie, les jeunes pourront respirer. Vous savez, le déconfinement, le retour à la vie normale, ça ne se fera pas en on-off, c'est pas comme on allume et on éteint une lumière, ça va se faire progressivement. Quand les personnes fragiles seront protégées, on va pouvoir assouplir. Donc déjà, rien que ça, retrouver une vie à demi-normale avec un peu de distanciation et déjà l'hydroalcoolique, c'est déjà pas mal.
Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, au micro de Fabienne Lemoyle hier sur Europe 1. Et puis un chiffre pour clore cette page sur le coronavirus. Sachez que vous êtes seulement 38% à faire confiance au gouvernement dans la gestion de cette crise. C'est le résultat d'un sondage IFOP publié dans le journal du dimanche.
Il est 6h06 en Espagne. Ce sont des scènes dont seuls les anciens peuvent se souvenir. Jamais depuis 50 ans, le pays n'avait connu pareille tempête de neige.
On a vu hier des scènes complètement surréalistes. Des Madrilènes en ski, en luge sur un périphérique complètement enneigé. La tempête Filomena a pris l'Espagne par surprise. La région de Madrid s'est retrouvée en partie paralysée. 4 personnes ont perdu la vie. Henri de la Guérie est en Espagne pour Europe 1.
L'épais manteau neigeux qui a recouvert une bonne partie de l'Espagne depuis vendredi a semé un véritable chaos. Routes coupées, trafic aérien suspendu, rames de TGV à l'arrêt. Et c'est tout un pays qui s'est retrouvé paralysé. Et des milliers de personnes ont été bloquées plusieurs heures dans leurs véhicules, notamment près de Madrid. L'armée a dû intervenir, mais hier soir, tout le monde a finalement pu être secouru, comme l'a confirmé Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Intérieur.
Nous n'avons plus aucune personne bloquée sur l'ensemble des routes du réseau national affectées par la tempête.
4 personnes sont décédées, un homme a été enseveli sous la neige près de Madrid, un autre est mort de froid dans le centre du pays. 2 autres se sont retrouvés piégés par la crue d'une rivière et sont décédés dans leur voiture près de Malaga. José González est le maire de Mijas, là où s'est produit le drame.
Nous devons malheureusement faire face à des pertes humaines et d'immenses dommages matériels. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour reconstruire notre ville.
La neige s'est arrêtée de tomber hier soir, mais une intense vague de froid va maintenant s'abattre sur l'Espagne. L'aéroport de Madrid, fermé depuis vendredi, ne reprendra pas ses opérations avant cet après-midi.
Henri de la Guérie, en Indonésie, un signal provenant de l'avion disparu hier a été détecté en mer. Des débris de ce Boeing ont d'ailleurs été retrouvés au large de la capitale Jakarta. L'avion avait disparu des radars peu après son décollage. Une 60aine de personnes se trouvaient à bord.
6h08, on passe au foot et ce titre décerné hier à Lyon.
On a franchi la mi-saison et à ce stade, l'OL est donc en tête du classement. Lyon est champion d'automne. Mais avec un point d'avance seulement sur Paris et Lille, rien n'est joué selon Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille.
Je m'aperçois que tout le monde a un rythme très élevé et une bagarre à mi-championnat. On ne pensait pas qu'il allait avoir si peu d'écart entre les équipes. Certains ont démarré très fort et finalement ont commencé à souffrir. D'autres ont démarré lentement et tournent plein pot. Évidemment qu'il y a la bagarre pour le podium. Mais je regarde aussi les écarts qui se creusent avec 4e, 5e. On va avoir un calendrier très chargé en espérant de ne pas avoir de joueurs impactés par la Covid. Il faut avoir un effectif qui puisse être performant sur les compétitions qui vont se présenter.
Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, avec Jean-François Pérez. Un mot du Vendée Globe pour vous signaler l'abandon cette nuit d'Isabelle Joschke. Elle était 11e, c'était la première femme du classement. Elle doit quitter la course en raison d'un problème de quille. À l'avant, Yannick Bestaven est toujours en tête.
Ils sont fermés depuis le reconfinement, ne réouvriront pas avant le mois prochain. Les musées ne sont pas en sommeil pour autant.
Oui, ils profitent de cette période pour innover, tenter de capter de nouveaux publics lors de la réouverture, et notamment les jeunes. On a vu débarquer ainsi le château de Versailles ou le musée Picasso sur TikTok, le réseau social des ados, Diane Chenouda.
Une visite à toute allure des jardins du château de Versailles, ou la découverte en accéléré du château lui-même en moins d'une minute. Cette vidéo du château a fait plus de 400 000 vues sur TikTok. Cela fait 2 mois que le château de Versailles poste 3 vidéos par semaine pour attirer les plus jeunes, les 13-25 ans. Catherine Pégard, la directrice du château de Versailles.
Il faut ouvrir le château de Versailles par tous les moyens, si j'ose dire. Et si TikTok, c'est le moyen de dire à des jeunes, eh bien, regardez ce que nous faisons, et puis, si ça vous plaît, venez donc le voir. Eh bien, je crois que nous aurons gagné.
Le musée Picasso aussi s'y est mis.
Bonjour, bienvenue sur le compte TikTok du musée Picasso de Paris.
Avec des vidéos de seulement quelques secondes qui suffisent à nous plonger dans l'univers du génie espagnol, Picasso et les femmes, Picasso et la bande dessinée. Pareil au musée du Quai Branly qui met en lumière ses collections, masques du Gabon ou les plumes d'Amazonie.
Diane Chenouda, précipitez-vous donc sur TikTok et également sur le site d'Europe 1, puisque j'entendais Catherine Pégard, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ce vendredi étaient au château de Versailles en émission spéciale. C'est une France Bouche que vous pouvez réécouter sur notre site. Enfin, c'est une histoire qu'on a eu envie de vous raconter ce matin, une histoire de famille.
Un père et une fille qui ont vécu des décennies sans se connaître et qui se sont retrouvés par hasard grâce à un test ADN. C'est Arthur Mbaché, notre correspondant à Strasbourg, qui nous raconte ses retrouvailles.
Elle a presque 25 ans quand Morgane apprend que son père n'est pas son père biologique. Elle se met à sa recherche en vain. 20 années s'écoulent jusqu'à ce test ADN, enfin ces tests ADN, puisque quelques semaines plus tard, par hasard, un octogénaire savoyard fait la même chose. La société israélienne qui réalise les tests les met en relation.
Et là, je clique sur le bouton. 50% d'ADN en commun avec cette personne, estimatif père. Je riais, je pleurais, je savais plus comment je m'appelais. Et sa première question, ça a été « Qui est ta mère ?»
Parce que donc, il ignorait qui était votre maman.
Bah oui.
Okay. Allô.
Coucou Jacques.
On a vécu une hâte, c'était de se rencontrer. Hein. Alors on s'est donné rendez-vous, ça s'est bien passé, on a passé 24 heures... fabuleuse, quoi. Comment je peux faire une fille aussi belle avec la tête que j'ai quand même? Non, mais attendez.
C'est pas vrai, c'est faux. On se rappelle?
Oui, ma fille.
D'accord.
Bisous.
Bisous, Jacques.
En fait, Morgane est le fruit d'un amour de jeunesse éphémère. Le jeune papa que j'étais a fui ses responsabilités. Je m'en veux terriblement, dit-il peu à peu. J'ai oublié tout ça. Aujourd'hui, disent le père et sa fille, nous sommes heureux. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Il n'y a rien à rajouter. Vous avez raison, Marguerite. Ma chère Marguerite Lefebvre qui revient tout à l'heure pour le journal de 7h.